don't need this guy
on n'a plus besoin de cet homme.
All 80 million. This is 80 million people in this country.
80 millions d'habitants de ce pays n'en peuvent plus.
They say no.
Ils disent non. Enough. Ça suffit.
Please go.
Allez, va-t'en.
Whatever you take,
quoi que tu aies pris, prends-le et disparais.
We will live.
On s'en sortira.
Sur une place que le monde entier a appris à connaître, la place Tahrir, les Égyptiens ont cru tenir leur rêve de liberté. Après 18 jours de manifestations, ils croient tourner la page de la dictature en forçant Hosni Moubarak à partir après 30 ans accroché au pouvoir.
Le président Mohamed Hosni Moubarak a décidé d'abandonner le poste de président de la République.
L'Égypte se débarrasse d'un homme, mais pas d'un régime. Après une parenthèse chaotique d'une année de présidence islamiste, celle des frères musulmans, l'armée a repris le pouvoir qu'elle n'a jamais vraiment lâché. Depuis, la répression contre cette jeunesse est d'une violence inouïe, faisant de ce régime une impitoyable machine à écraser toute opposition.
Ça ne rime à rien d'essayer de maintenir une vie normale en parallèle. Parce que tant que ce régime sera en place, ma famille sera en danger.
Même les défenseurs des droits de l'homme les plus en vue, les militants que l'on croyait les mieux protégés, sont aujourd'hui sous la menace d'une arrestation. Certains ne peuvent même pas quitter leur pays. Les manifestations sont interdites, l'opposition broyée, la société civile survit dans un pays où le président Sisi a été réélu en 2018 avec 97% des voix. Le seul journal indépendant du pays est consultable uniquement depuis l'étranger.
Je préfère dans ce cas-là de vraiment vivre dans le présent en sachant qu'il y a une grande possibilité que je n'existerai pas demain.
Pour commencer ce reportage, Martin Roux, le correspondant de France Inter au Caire, nous amène là où tout a commencé, place Tahrir, pour laquelle le pouvoir a un projet démesuré. Y installer un obélisque, des sphinx, des œuvres de l'Égypte ancienne, dans une mise en scène grandiloquente, le pouvoir dépense sans compter pour le nouvel aménagement de l'épicentre de la révolution. Environ 8 millions d'euros pour au final réécrire, effacer l'histoire de ce lieu comme si aucun souffle de liberté n'y avait jamais soufflé. Égypte, te souviens-tu de ta révolution ? C'est un reportage de Martin Roux.
Interception. Le magazine de la rédaction.
Je m'appelle Mohamed Hassan, j'ai 33 ans et j'habite au centre-ville. La place Tahrir aujourd'hui, elle a des allures de régiment militaire tenu par des policiers civils. Il y a plus de policiers civils que de passants sur la place. Quand je passe par là, mes poils se hérissent tellement j'ai peur. J'ai peur qu'ils me contrôlent et ouvrent mon téléphone, parce que tu ne peux pas leur dire non. Et si tu viens pour t'asseoir sur ces bancs, ils viennent te dire de ne pas t'asseoir. Si tu regardes, tu verras, ils ont tous des moustaches, moustaches et chaussures cirées. Ça veut dire que ce sont des policiers. Ils restent là, ils regardent autour, ils ne font rien. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là tout le temps. C'est comique, franchement, on les reconnaît. Et d'ailleurs, ils savent qu'on les reconnaît. Mais tout le monde fait semblant. Le message qu'ils envoient, c'est l'intimidation. Interdit de s'asseoir, interdit de se rassembler. Cette place, elle est à eux et pas à nous, le peuple. Elle est au gouvernement, elle est au pouvoir. Cette place, c'était notre vie. Je me souviens avec mon ex-copine, notre premier baiser, c'était sur la place Tahrir. C'était un moment exceptionnel avec elle. Non, mais cette place, c'était le symbole de la révolution et de la rébellion. La rébellion face au pouvoir, à la politique, à la religion, à la société dans son ensemble et à ses contraintes. On prenait des photos sans problème, on prenait des selfies. C'était où on se retrouvait, où on rencontrait nos amis. C'était le lieu où on se rassemblait, où on célébrait. On célébrait notre victoire dans ce lieu qui est à nous. Mais malheureusement, après 2013, ça a été fermé par étapes. Et depuis 2019, carrément plus personne ne peut être là. Le pouvoir s'est concentré là-dessus, faire en sorte que la place Tahrir soit à lui et à personne d'autre.
يا الميدان À une quinzaine de minutes à pied de la place Tahrir, nous sommes dans le quartier d'Abdine, à l'angle d'une ruelle, un poster sur un mur de 2 mètres sur 4 mètres. Sur ce poster, le visage d'un jeune homme souriant. Jika appartenait à cette jeunesse révolutionnaire. C'est un martyr de la révolution. Il a été tué en 2012 dans la rue Mohamed Mahmoud, adjacente à la place Tahrir, au cours d'une manifestation. Il a été tué par les forces de sécurité. Il avait 16 ans.
Je suis Salah Gaber, le père du martyr Salah Gaber Jika. Là, nous sommes dans la chambre du martyr Salah Gaber Jika. Les jeunes, ses amis, garçons et filles, en ont fait un musée. Chacun a rapporté des portraits de lui. Et même son lit. Personne n'y a dormi depuis 8 ans. Nous avons raconté l'histoire de Jika au monde entier. C'était un jeune homme en classe de première au lycée. Il avait 16 ans et 10 mois. À son âge, il dirigeait les cortèges. C'est lui, ici, et là, et encore ici. Partout où il y avait des manifestations, il était présent à chanter des slogans avec les jeunes de la révolution. Il était très actif. C'est pour ça qu'ils l'ont tué et qu'ils l'ont assassiné.
Est-ce que vous pourriez nous lire ce qui est écrit sur ce portrait de Jika, de votre fils ?
Les noms de tous les martyrs sont gravés dans l'histoire de l'Égypte. C'est une phrase qu'il a écrite de sa main. Les noms de tous les martyrs sont gravés dans l'histoire de l'Égypte. C'est son écriture. Et il a écrit son nom ici. Donc nous avons fait ce portrait et nous avons repris les mots qu'il avait inscrits là-dessus.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez la place Tahrir telle qu'elle est devenue aujourd'hui, sans mémorial, sans rien qui ne rappelle les gens qui sont tombés pour la révolution du 25 janvier 2011.
Si tu respires l'air là-bas, tu sentiras le sang des martyrs. Cette odeur est toujours présente. Personne ne pourra jamais effacer l'odeur du sang des martyrs là-bas. Jamais. L'odeur du sang des martyrs restera présente sur ce lieu.
La matinée avait été calme. Et tout à coup, en à peine quelques minutes, le chaos s'installe place Tahrir. Face à face, pour la première fois, les partisans du président Moubarak et les manifestants qui réclament inlassablement son départ. À coups de pierre ou de barres de fer, les heurts sont extrêmement violents.
Ce pays ne sera stable que par la justice. Sans justice, il n'y a pas de stabilité. Sans justice, il n'y a pas de progrès. Sans justice, il y aura une autre révolution. Et même pire qu'une révolution, ce sera le chaos. La seule assurance de stabilité et de progrès pour ce pays, c'est la justice. Uniquement la justice. Et encore la justice. La justice sera rendue seulement lorsque la loi s'appliquera à tous. À ceux d'en haut, avant ceux d'en bas. Aux riches, avant les pauvres. Aux forts, avant les faibles. C'est ça la justice. Ça n'existe pas un peuple qui ne conteste rien. Même les animaux se rebiffent. Le peuple qui ne s'oppose à rien est inférieur aux animaux. Comment un peuple pourrait se passer d'opposition? L'opposition est bâillonnée, elle n'a pas accès aux médias. Leur argument est de dire que le peuple égyptien n'est pas prêt pour la démocratie. Il n'y a aucun peuple qui ne soit pas prêt pour la démocratie. Tous les peuples sont prêts pour la démocratie, mais tous les dirigeants ne le sont pas.
Bonjour, je m'appelle Lina Antalla, je suis la rédactrice en chef de Madame Ross, un site d'information égyptien basé ici au Caire. Et ça fait 7 ans que nous sommes là.
6e étage d'un immeuble de Doki, sur la rive ouest du Nil, tout proche du centre du Caire. La rédaction de Madame Ross reloge dans un appartement aménagé en open space. Ce site d'information, c'est le dernier média indépendant en Égypte. Aujourd'hui, 10 de journalistes sont présents. Ils ont tous 30 ans. La plupart pianotent sur leurs ordinateurs portables ou sur leur téléphone. C'est une ambiance plutôt décontractée. On en oublierait presque que ce site d'information, cette rédaction, c'est la bête noire du régime.
L'étau se resserre sur les médias indépendants en Égypte. La dernière victime de cette répression, le média Madame Asr. 3 journalistes de cette rédaction ont été arrêtés puis relâchés ce dimanche. Les policiers étaient venus perquisitionner les locaux du site d'information en ligne au lendemain de l'arrestation de Shadi Zalat, un autre journaliste de la rédaction.
Au mois de novembre 2019, j'avais organisé une réunion pour mon équipe parce que notre collègue venait d'être kidnappé par les forces de sécurité. Alors qu'on allait commencer notre réunion, des mêmes forces de police sont venues à nos locaux. Ils sont restés à fouiller le bureau et au bout de 4 heures de temps, ils m'ont pris à moi et 2 de mes collègues. Je pense qu'ils comptaient nous jeter en prison, comme c'est malheureusement le destin de plusieurs journalistes et opposants politiques en général en Égypte ces jours-ci. Sans comprendre exactement ce qui s'est passé, on a été libérés le même jour. Nous pensons que toute l'histoire a eu place parce qu'on avait publié un article qui n'a pas plu aux autorités, qui posait des questions sur la façon avec laquelle le pays est géré maintenant, surtout au niveau de la présidence et au niveau plutôt personnel de la famille du président et les membres de cette famille qui jouent des rôles politiques au sein du pouvoir aujourd'hui.
Vous pensez que c'était cet article du coup sur le rôle du fils du président dans les services de sécurité qui a été à l'origine de ce raid, mais vous n'en avez pas la certitude?
Nous n'avons aucune certitude parce que personne ne nous a expliqué depuis le début du raid sur nos locaux pourquoi ce raid a eu place. Donc on devine.
Est-ce que cela peut se reproduire en fait n'importe quand? C'est une menace avec laquelle vous travaillez?
Il n'y a pas de raison de penser que n'importe qui que ce soit dans les conditions dans lesquelles nous sommes est en protection complète. Nous avons eu le privilège de ne pas avoir à passer nos vies en prison jusqu'à maintenant, mais ça ne veut pas dire que nous avons un genre de pouvoir qui nous protège complètement. Ce qui fait que nous avons continué à travailler, nous avons repris le travail assez immédiatement aussi, c'est que vraiment, nous sommes en liberté, on n'a aucune excuse de ne pas travailler. Donc je pense que, oui, bien qu'il y a une peur qui continue à exister là, et je ne peux pas le nier, moi-même je l'ai la plupart du temps, mais en même temps je sais très bien que mon sort est le sort d'une personne libre. Tant qu'on est libre, on n'a qu'à faire ce qu'on a besoin de faire. Je refuse de laisser ces ambitions et être dans cette logique de survie. Je préfère dans ce cas-là de vraiment vivre dans le présent, de faire tout ce que je peux faire aujourd'hui, en sachant qu'il y a une grande possibilité que je n'existerai pas demain.
Vous-même, vous appartenez à la génération qui a participé activement à la Révolution. C'est le cas de la majorité des journalistes. Qu'est-ce que cela représente de continuer à faire vivre ce projet, ce site d'information?
Bien que la Révolution ait été un moment très touchant de ma vie, je pense que j'ai un grand privilège de non seulement vivre en un moment où j'ai vu une révolution, mais j'ai participé activement à cette révolution, mais en même temps, je crois aussi que ce qui importe, c'est plutôt ce qui se passe après. La révolution, c'est
un moment dans l'histoire qui a une suite. Et cette suite-là n'est pas fermée. Nous, en tant que MADA, par exemple, en tant que groupe de journalistes indépendants, faisons partie d'une trajectoire qui crée une suite, qui tient à garder une certaine suite à cette révolution. Quand on me demande qu'est-ce qui en reste, nous restons. Pardon, je dois répondre à cette question. Hi, Gigi.
Dans les bars du centre-ville, QG des révolutionnaires en 2011, on boit toujours de la Stella, la bière locale, mais on ne parle plus politique. Ces établissements ont aujourd'hui l'obligation d'être sous vidéosurveillance.
Pour mission d'incarner le futur de l'Égypte. La nouvelle capitale administrative du pays émerge du désert. Chaque jour, des milliers de camions et des dizaines de milliers d'ouvriers viennent participer au plus grand chantier d'Afrique.
Le grand projet du président Sissi, c'est de bâtir une nouvelle capitale. L'idée mise en avant est de désengorger le Caire, ville de 20 millions d'habitants asphyxiée par le trafic automobile. Cette nouvelle capitale va abriter tous les lieux de pouvoir dans un gigantesque complexe en train de pousser dans le désert à 50 km du centre du Caire. Ce projet est estimé à plus de 3 milliards d'euros.
This is our crash.
C'est la voiture qui bipe parce que ici, la ceinture, c'est pas automatique quand on monte en voiture.
Nous retrouvons Martin Roux pour la visite de ce chantier aussi politique que démographique.
Mon nom est Hicham Naguib. Je travaille comme responsable des relations publiques.
Nous nous trouvons maintenant sur le site de construction de cette future capitale. Cette ville est construite sur une superficie de 750 km², c'est la superficie de Singapour. Elle est pensée en quartier, avec un quartier des affaires, un quartier du pouvoir, un quartier culturel et puis des zones résidentielles. C'est-à-dire que pour l'instant, tous ces quartiers sont très espacés les uns des autres et nous les parcourons en voiture. Pour venir ici, il faut une autorisation et c'est une visite très encadrée.
Là, c'est une grande place comme la place Tahrir, mais ici, elle s'appelle la place du peuple. C'est ici qu'on organisera les funérailles militaires à l'avenir. Oui, oui, oui. Là, c'est le Parlement. Et comme vous le voyez, c'est immense. Sur la gauche, c'est El Massa Capital. C'est un spa et un grand hôtel qui s'appelle Le Diamant. Il a été construit par le ministère de la Défense. Sur la droite, les ministères. Nous sommes maintenant dans le quartier des ministères. Sur la gauche, le secteur présidentiel. El Sisi sera ici en cette année 2021. C'est le nouveau palais présidentiel.
Nous passons maintenant devant un quartier résidentiel qui a l'air terminé. Ce sont des dizaines d'immeubles d'au moins 10 étages couleur sable qui s'alignent à perte de vue. Donc ce qu'on voit ça là-bas au loin, c'est bien le quartier d'affaires, n'est-ce pas ?
C'est le CBD, le Central Business District, construit par une société chinoise.
2000 ouvriers chinois travaillent là et dorment sur place dans des préfabriqués à proximité de ce chantier où sort actuellement du sable la plus haute tour d'Afrique. Elle doit culminer à 350 mètres. On est dans le bureau de Khaled Al-Husseini, c'est le porte-parole de la société qui pilote le projet de Nouvelle Capitale. C'est une société qui est détenue majoritairement par l'armée. Est-ce que vous pourriez expliquer à un public français pourquoi l'armée investit dans cette opération immobilière ?
Le président a pris un décret dans lequel il y a deux articles. Le premier article dit que l'État égyptien va construire une nouvelle capitale. Le deuxième article prévoit que les ministères du logement et de la défense vont créer une nouvelle entreprise et que cette entreprise sera l'unique propriétaire des terres. Elle construira et sera entièrement responsable de ce projet.
Les images qu'on voit de cette ville, comme celle derrière vous, sont assez luxueuses. Elle doit à terme abriter 6,5 millions d'habitants, décongestionner le Caire. Est-ce qu'il y aura une place pour les bas revenus dans cette nouvelle capitale ?
C'est une question difficile. Nous possédons ces terres. Et nous dépensons de l'argent pour installer les infrastructures. Il faut donc que nous puissions nous rémunérer sur ce projet. Rien n'est gratuit. Ce serait éventuellement le rôle de l'État de rendre les choses accessibles à tous les citoyens égyptiens. Mais ce n'est pas notre rôle à nous. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez de l'argent, vous pourrez vivre dans la nouvelle capitale. Si vous avez de l'argent, vous pourrez lancer votre activité commerciale, par exemple. Mais si vous n'en avez pas, on ne pourra pas vous aider.
Le Parlement, les ministères, le palais présidentiel, le centre du pouvoir va être déplacé dans cette nouvelle capitale. Qu'est-ce qui justifie ce déménagement ? Est-ce que c'est une question de symbole ?
Oui, il y a de cela. Mais surtout, quand vous lancez un projet comme celui-ci, il faut qu'il soit unique. Ça valorise le projet. C'est pour cela que l'on déménage le Parlement, le siège du gouvernement et le palais présidentiel dans la nouvelle capitale. Cette nouvelle capitale sera pourvue des dernières technologies. Les caméras aideront les policiers à accomplir leur mission. La ville et ses alentours en seront d'autant plus sécurisés. Cela permettra aussi de lutter contre le terrorisme. C'est tout à fait normal.
Je peux juste vous poser une question. Est-ce que vous enregistriez mes questions en français pour être sûr que je faisais la même traduction en anglais ?
Oui, je suis convaincu que vous êtes assez honnête pour passer de l'anglais au français, mais moi je ne parle pas français. Je vous fais pleinement confiance, bien sûr. Vous représentez un grand média. Et c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans notre QG.
كويس؟
Nous sommes avec Afaf El Saïd. Merci de nous recevoir dans votre bureau de la rue Champollion. Vous êtes une écrivaine et une militante féministe. Votre engagement remonte aux années 90. Vous avez aussi fait partie du mouvement de protestation Kefaya du temps des dernières années du régime d'Hosni Moubarak. Aujourd'hui, vous soutenez publiquement l'armée et le président Al-Sisi. Comment expliquez-vous ce virage idéologique dans votre engagement ?
Personnellement, au moment où les démocrates ont soutenu Morsi, cela m'a fait un choc. Je me disais, mais comment ? Les islamistes sont contre nous, pas contre nous en tant qu'individus, mais contre le pays. Eux, ils ne pensent pas en termes d'État, ils pensent en termes de l'Oumma. C'est une différence énorme. Eux, ils croient en un État islamique, selon leur idéologue. Nous croyons à la Constitution et à la loi. Comment les soutenir ? C'est quelque chose qui dépasse la raison. Il n'y a pas de logique. Moi, je ne veux pas quitter mon pays. J'ai subi des violences. J'ai été attaquée dans la rue et chez moi. Des islamistes m'ont frappée dans ma montée d'escalier. C'était si violent que j'aurais pu mourir. Ils m'ont recherché, moi et ma fille. Ils demandaient, cette femme, elle habite où ? Ils savent très bien où je vis. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne soutiendrai jamais les islamistes, quels qu'ils soient. C'est pourquoi le 30 juin 2013, jour de la révolution pour chasser le frère musulman Morsi, j'avais une vision claire, une logique et un objectif clair. Moi, je suis avec un État civil. Qui soutient cet État civil ? L'armée. Qui est le président ? Sisi. Et pour tout dire, depuis que le président Sisi a pris le pouvoir, je le soutiens à fond et publiquement. Sisi a fait de nous des citoyens égaux et nous a rendus respectables aux yeux du monde. Depuis Sisi, quand je suis à l'étranger, je dis « je suis égyptienne ». Il nous a rendu un nom et une identité. Bien sûr qu'il y a des points négatifs. Mais cela peut être réglé. Alors que si l'État s'effondre, on disparaîtra.
Quels sont les aspects négatifs ?
Il y a encore des points négatifs sur les droits humains. Il y a des jeunes que je connais qui sont emprisonnés. Ils ne devraient pas l'être. Ils devraient être présentés devant un juge. Mais non, ils sont en détention provisoire. Ils n'ont pas de procès. Eux, ils devraient être libérés. Et on l'écrit, on le dit. Donc ça, c'est un problème. Pourquoi des jeunes sont maintenus en détention provisoire ? Pourquoi sont-ils arrêtés et accusés d'être des frères musulmans ? Alors que ce sont en réalité des libéraux et des démocrates. Pourquoi ? C'est un peu bizarre. Mais je pense que petit à petit, ça va s'améliorer. Il y a des jeunes qui sont sortis et d'autres qui continuent de sortir. Ils les libèrent petit à petit. C'est bien, ces affaires ne vont pas rester ainsi. Moi, ce que je vois pour l'avenir, nous allons continuer à suivre une ligne droite, une seule direction, la direction de l'État ou du gouvernement. Jusqu'à ce que Sisi parte et qu'un autre vienne. Jusqu'à ce que l'opposition réfléchisse et mûrisse. Et il faudra 25 ou 30 ans. Pas avant. Ce ne sera pas de mon vivant. Je ne verrai pas cette opposition.
Nous sommes mercredi. Habituellement, chaque mercredi, nous préparons ce qu'on appelle la tableya. Ce sont ces choses que l'on livre à quelqu'un en prison, mais sans le voir. C'est hebdomadaire. Donc habituellement, le mercredi, je m'occupe de Sana et maman de Ala. Je vais à la prison de Kanater et maman à la prison de Tora. Ils ont interdit les visites à cause du Covid pendant 7 mois. Elles sont de nouveau autorisées depuis octobre, une fois par mois et pour un seul visiteur. Ce n'est pas la première fois que nous traversons cela. En 2014, Alaa et Sana étaient déjà en prison quand mon père était malade. Donc on a déjà traversé ce genre d'épreuve, mais cette fois c'est bien plus dur. Je suis Mona Saif. Je suis une défenseure égyptienne des droits humains. Je suis aussi une chercheuse en biologie cellulaire. Mais en ce moment et depuis un an, je suis principalement la sœur de deux prisonniers politiques, Alaa Abdel Fattah et Sana Saif.
Sana Saif est accusée de diffusion de fausses nouvelles, d'incitation à des infractions terroristes et d'utilisation abusive des réseaux sociaux. Votre frère, Alaa Abdel Fattah, a été placé sur une liste terroriste. Est-ce que ces accusations sont fondées ? Est-ce que des preuves vous sont présentées ?
Jusqu'à maintenant, on ne sait même pas ce qu'il y a dans leur dossier, parce que ce sont des poursuites engagées par la sécurité d'État. Les avocats ne sont pas autorisés à regarder dans les dossiers. Nous n'avons aucune information. Nous sommes à un point où toutes les institutions sont utilisées comme des outils pour écraser les dernières voix d'opposition. Donc on se bat contre le régime et tout le système judiciaire.
Donc tout ceci, c'est le sac que vous préparez pour Sana, que vous pouvez lui apporter une fois par semaine.
Oui. On essaye de lui trouver des choses à faire tant qu'elle est à l'intérieur. Cela fait 4 semaines qu'on essaye de faire passer ces feutres de couleur, mais ils ne l'autorisent pas. C'est simple, ils n'autorisent rien qui soit un loisir. Comme a dit l'officier, il n'y a pas de règles. Vous voulez une structure et des règles, et on ne vous donnera pas ça.
Quelle place ça prend dans votre vie de vous occuper de votre frère et de votre sœur qui sont en prison, et aussi de faire face à toutes ces décisions arbitraires quand vous voulez leur apporter des choses très très simples?
C'est la première fois que je ne vois pas de fin. Ça ne rime à rien d'essayer de maintenir une vie normale en parallèle, parce que tant que ce régime sera en place, ma famille sera en danger. Je suis dans un état de crise perpétuelle. C'est pourquoi maintenant mes semaines et ma vie sont construites autour de ce qu'il faut faire pour Alaa et Sana. Et gérer toutes les décisions arbitraires qu'ils jettent devant nous. Je ne veux pas dire que ça me fait me sentir bien, mais ça me fait ne pas me sentir totalement impuissante. Parce que je m'en sors et ils s'en sortent. J'ai rendu visite à Alaa la semaine dernière. Je ne comprends pas comment il maintient sa santé mentale et son bien-être quand il est privé du soleil, de musique et de livres depuis 1 an et 3 mois. Je n'arrive même pas à imaginer comment. Je suis stupéfaite de voir à quel point il est puissant en dépit de tout cela. J'étais inquiète à propos de ma sœur. Nous ne nous attendions pas à ce que Sana soit arrêtée. J'avais peur qu'elle soit secouée. Mais c'est comme si quelqu'un avait tourné un bouton. Elle s'en sort, elle est capable, elle est résiliente. Donc c'est ma vie maintenant. Je n'ai pas d'autre identité que d'être la sœur d'Alaa et Sana. Et ce sera comme ça jusqu'à leur sortie. Jusqu'à ce qu'on ait tous quitté ce pays. C'est la première fois que je suis dans cet état d'esprit. Je veux qu'ils partent et je veux partir.
Ella Swaif revient de la prison de Tora et elle vient de remettre une lettre à Mona.
This is what keeps us going every week.
Voilà, c'est ça qui nous fait tenir chaque semaine.
Tomorrow we'll get a letter from Sana.
Demain nous aurons une lettre de Sana.
ازيك يا ماما؟ جواب 9 ديسمبر وجواب زيارة 16 ديسمبر دخلوا بس جواب النهارده لسه فانا هرد بقى على الكلام اللي قالته.
Dans cette Égypte où les voix discordantes sont éteintes, il y a eu l'effet de surprise des cortèges de septembre 2019.
Sissi, va-t'en, scandent les manifestants. Nous, on ne partira pas, c'est lui qui doit partir. Ils ne sont que quelques centaines aux abords de la place Tahrir. Mais il faut une bonne dose de courage et de détermination pour oser descendre dans la rue et réclamer ainsi le départ du président égyptien. Alors que depuis le coup d'état militaire de 2013, les manifestations d'opposition sont interdites en Égypte.
Sentiment de déjà-vu devant ces poignées de jeunes qui demandent plus de liberté. Dans bon nombre d'endroits au monde, ces manifestations microscopiques n'auraient même pas attiré l'attention. Mais en Égypte, elles étonnent par leur bravoure. Mais depuis ce dernier élan, plus rien. Manifester, c'est aujourd'hui la certitude d'être arrêté. Si bien que la dynamique révolutionnaire est en veille, car pour beaucoup, la priorité est ailleurs, comme Martin Roux a pu s'en rendre compte en allant dans l'un des quartiers les plus pauvres du Caire.
Interception sur France Inter.
On surplombe le quartier de Manchiat Nasr. On voit sur le toit des immeubles des dizaines de cabanes en bois sur pilotis. Ce sont des pigeonniers. Nous nous trouvons dans celui de Mina. C'est un jeune de 30 ans. Il a grandi ici dans ce quartier, le quartier des chiffonniers.
Je m'appelle Mina. J'ai 30 ans. J'habite à Manchiat Nasr, dans le quartier des Araïb. Nous sommes ici dans mon pigeonnier. J'aime élever des pigeons, comme vous le voyez. Je viens ici le matin et je fais voler mes pigeons. Je vis avec eux, j'oublie ce monde. J'oublie la maison, la famille, j'oublie tout. Je monte ici avec les pigeons et je me sens vivant. J'ai l'impression de voler, d'être un oiseau dans le ciel. J'aime vivre avec les pigeons. Depuis qu'on est petit, notre vie, c'est de s'épuiser à la tâche. On ne reste pas à la maison, on se lève pour travailler et rapporter l'argent qui nous nourrit. Manchiat Nasr, ici, c'est connu pour le traitement du carton et des déchets. Les gens collectent les déchets de partout et les rassemblent ici, dans le quartier. C'est notre travail et le pain de notre existence. On n'est pas à plaindre, je remercie Dieu. La nourriture que l'on tire de notre labeur vaut mieux que celle que l'on vole.
Quelle différence avez-vous ressenti après la dévaluation de la monnaie il y a un peu plus de 3 ans?
Du temps de Hosni Moubarak, on avait du travail et de l'argent. La monnaie n'était pas dévaluée. Aujourd'hui, la monnaie n'a plus aucune valeur. Il n'y a plus d'argent comme avant. La vie est devenue dure. La vie est devenue très dure.
Et au milieu de toutes ces difficultés que vous décrivez, est-ce que la liberté, c'est quelque chose qui a encore un sens à vos yeux?
La liberté? On est dans un quartier populaire. Ça n'existe pas, la liberté. Chacun s'occupe de lui-même, de sa maison, de sa famille. Personne ne peut s'impliquer dans autre chose. Nous, depuis notre naissance, la vie est dure. On est confronté aux problèmes et à la violence. Et notre gouvernement est très dur. Il est là pour mater. Il te mate. Si tu dis quelque chose qu'il ne faut pas dire, ils te prennent et te frappent. Ils te jettent en prison et tu y resteras pour longtemps, juste pour quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Ça n'existe pas, la liberté. C'est difficile d'être libre. Il y a d'autres pays où la liberté existe, avec des lieux où tu peux aller t'exprimer. Ici, on n'a pas ça. Descendre dans la rue pour aller s'exprimer. Si tu parles, ils t'assènent un coup sur la nuque et ils te jettent en prison. Tu ne verras plus la lumière. Toute ta vie, tu la passeras dans les ténèbres. En plus de tout cela, tu seras frappé, tu seras humilié et il n'y a rien qui s'appelle la liberté.
Est-ce qu'il vous reste l'énergie de vous mobiliser et surtout, est-ce que c'est quelque chose en laquelle vous croyez encore ?
J'ai de l'espoir en Dieu. C'est difficile d'avoir espoir en quoi que ce soit d'autre. Dieu seul me donne la liberté. Elle ne viendra ni des autres, ni de moi. Je n'ai d'espoir qu'en Dieu.
Alexandrie compte plus de 5 millions d'habitants. La ville s'étale sur près de 40 km face à la Méditerranée. Nous sommes au centre-ville, face au vieux port, à l'endroit où se trouvait, eh bien, dans l'Antiquité, le phare d'Alexandrie. Derrière nous, il y a d'abord les immeubles décati de la ville européenne et puis tout de suite derrière ces hautes tours de briques qui constituent, eh bien, les quartiers populaires d'Alexandrie. Tout proche du centre-ville, nous avons rendez-vous avec Youssef El-Chazli. Nous sommes dans sa ville natale. C'est un chercheur en sociologie politique. Il est l'auteur de l'ouvrage « Devenir révolutionnaire à Alexandrie ». Est-ce que ce qui fonde cet avant-après du moment révolutionnaire, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une dignité qui touche les masses à ce moment-là ?
Je pense qu'on peut aisément penser qu'il y a quelque chose de central dans cette question de la dignité, et c'est vraiment le fait d'être pris en considération, d'être respecté, d'être écouté, de se retrouver face à des officiers qui écoutent, des officiers qui respectent, etc., et non pas qui... malmène ou torture, etc. C'est une grande transformation par rapport à l'expérience d'un jeune et d'une jeune égyptien, égyptienne des années 90 et 2000, où on a l'impression qu'on ne choisit rien. On a l'impression que, en fait, on a une ligne toute tracée et qu'on la suit. Et voilà, donc l'école, le mariage, les enfants, le travail, la religiosité, enfin une espèce de ligne toute tracée. Et c'est difficile de sortir du rang. C'est très difficile de sortir du rang. Et le moment révolutionnaire, c'était un moment où le rang explose, où même si les gens sont ensemble, ils ont l'impression d'être ensemble de leur propre choix. Et je pense que ça, c'est une force, et que les choses qui en restent, elles restent de là. Elles restent aussi de ce sentiment de dignité.
Aujourd'hui, dans un moment de restauration d'un régime autoritaire, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Est-ce que, pour autant, on continue d'observer des effets de ce moment-là en Égypte ?
Même si on peut dire que les effets les plus politiques, les plus visibles, électoraux, politiciens au sens strict, les institutions, les élus, etc., ne sont pas ressentir aujourd'hui. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il n'en reste plus grand-chose. En revanche, il reste beaucoup de choses à d'autres niveaux. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui ont participé de près ou de loin à l'événement révolutionnaire, mais qui ne peuvent ou ne veulent pas participer à la politique politicienne, parce que ça ne les intéresse pas, eh bien, ont souvent investi leurs énergies révolutionnaires, on peut les appeler comme ça, dans d'autres sphères. Et si on veut prendre un cas qui est là aujourd'hui est très très frappant, de tout ce qu'il peut rester de la révolution égyptienne ou du moment révolutionnaire, le mouvement féministe, qui n'était pas aussi puissant avant 2011, c'est-à-dire qui existait évidemment, mais qui était dans des tout petits réseaux, eh bien aujourd'hui, c'est le cœur de ce qui se passe en Égypte. C'est-à-dire là, vraiment, depuis 2-3 ans, on a l'impression que la chose la plus vigoureuse, le mouvement le plus vigoureux, les revendications les plus vigoureuses en Égypte sont celles qui sont liées, alors principalement aux violences faites aux femmes, donc aux questions de violences sexuelles, etc., qui sont devenues très centrales. Ça ne veut pas du tout dire que c'est réglé, très très loin de là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais on en parle, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et ça, c'est une grande différence. C'est peut-être mon tropisme professionnel, puisque je travaille sur la révolution et sur ça, mais moi, j'ai l'impression de voir la révolution un peu partout. Quand je marche dans la rue, c'est vrai qu'elle a disparu, elle est effacée, parfois littéralement, mais juste l'autre jour, à deux rues d'ici, il y avait un drapeau égyptien avec révolution du 25 janvier 2011. Quelqu'un a dû oublier de l'effacer. Mais ce genre de petits totems, de petites choses cachées, et dans les petites conversations, dans des échanges, soit des petites graines de choses qui ont été semées ici et là au moment révolutionnaire. Et parfois même ces jeunes-là ne savent pas que ça vienne de ce moment, d'il y a 10 ans, parce que finalement ils étaient enfants à ce moment-là. Mais malgré tout, c'est ça qu'on ne peut pas effacer. C'est-à-dire qu'on peut toujours effacer, enfermer les grandes organisations, les grands noms, ces images-là. Mais un moment révolutionnaire par sa nature même, qu'il touche des milliers, des centaines de milliers, voire de millions de personnes, il est impossible de contrôler totalement ce qu'il en restera, ses vies ultérieures, ses traces, et comment celles-ci seront reprises, réinventées. Et je pense que les plus jeunes aujourd'hui, que ce soit dans l'art, que ce soit même dans certaines initiatives politiques, dans leur manière de produire, si on regarde juste les mèmes et sur Internet, enfin des pages comme Asahbi, ou des pages qui sont suivies par des centaines de milliers de personnes et qui sont spécialisées dans de l'humour satirique, etc., c'est extrêmement politique. tous les jours, je vois au moins une vingtaine de mèmes comiques, ironiques à l'égard de la politique de l'État sur Corona, de tout ça. Donc tout ça, c'est de la critique politique. Ça ne veut pas dire que c'est de la révolution en train de se faire, de la nouvelle, mais c'est de la conscience politique qui n'était pas peut-être autant distribuée dans la population qu'avant.
Depuis la première diffusion de ce reportage, c'était en janvier dernier, la sœur de Mona Seif, cette activiste qui s'occupe de son frère et de sa sœur en prison, sa sœur donc a été condamnée à 1 an et demi de prison pour propagation de fausses nouvelles. Égypte, te souviens-tu de ta révolution ? Martin Roux, notre correspondant au Caire, a signé ce reportage. Violaine Ballet l'a réalisé avec l'assistance de Martine Messonnier. Mixage, Dofar Guéride.